Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Friend Connection. Cette semaine, on va vous parler du technique avancée DAD avec Guillaume et Paul.
Salut tout le monde, ça va bien?
Bonjour, bonjour.
Donc, cette semaine, c'est la suite du premier segment technique qu'on avait fait sur Active Directory. Donc, on a quelques sujets un peu plus avancés. Dans les show notes, il va y avoir beaucoup de liens avec pas mal d'informations pour vraiment mettre ces trucs-là en place. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier segment technique sur Active Directory, je vous conseille de faire pause, de regarder dans votre client podcast, de trouver l'épisode d'il y a quelques semaines, puis d'écouter l'autre en premier. Donc, la première recommandation que j'aurais vraiment pour les gens qui ont déjà un bon niveau de sécurité au niveau d'Active Directory puis qui veulent l'améliorer, c'est pas une recommandation précise, mais c'est vraiment d'aller lire le white paper Mitigating Pass the Hash and Other Credential Theft, la deuxième version de ce white paper-là de Microsoft. C'est un document dans lequel ils vont vraiment parler de tous les problèmes qui sont un peu inhérents à l'utilisation des protocoles comme NTLM puis Kerberos, puis toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans Windows pour diminuer les risques que ces attaques-là puissent être utilisées contre vous. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de manière de complètement les éliminer non plus, sauf qu'il y a beaucoup de manières de réduire le risque pour certains systèmes spécifiques, vos contrôleurs de domaine, des serveurs critiques. Donc vraiment, première étape, allez lire ça. Donc, il y a beaucoup de choses dont on a parlé la dernière fois, puis on va parler cette semaine, puis ça découle un peu de là, ou au moins il y a une référence à ça dans ce document-là. Une des choses qui est mentionnée là-dedans, puis qui est assez importante, qui est une fonctionnalité assez récente de Active Directory, c'est d'utiliser des Protected Accounts, puis ce qu'on appelle les politiques de silo d'authentification. Donc, j'ai un lien dans les show notes vraiment sur comment configurer ces silos-là, puis toutes ces politiques-là. C'est un sujet dans lequel on pourrait rentrer en pas mal de détails, mais en gros, c'est vraiment une manière de faire de la segmentation un peu au niveau de l'identité, puis au niveau de l'authentification, pour que les systèmes qui sont vraiment plus critiques puissent bénéficier d'une politique qui est un peu différente, mais aussi pour que des comptes ou des tickets qui ont été volés à un endroit ou à un autre puissent pas nécessairement être utilisés partout dans votre domaine. Donc, c'était une technique un peu plus avancée. Commencez pas à rentrer là-dedans si, par exemple, vous avez pas tout fait ce dont on a parlé la dernière fois ou vous avez encore des serveurs Windows 2003, ce genre de trucs-là. C'est vraiment plus pour un environnement qui est très moderne, qui a pas des vieilles versions de Windows puis qui a déjà un bon niveau de sécurité. Ensuite, PowerShell, on sait que c'est très, très utile pour tout le monde, autant en sécurité côté defense, mais malheureusement aussi côté offense. Mais ce qui est intéressant, c'est que PowerShell, depuis la version 5, il y a la capacité de loguer avec vraiment beaucoup plus de granularité ce qui se passe dans PowerShell. Donc, il y a beaucoup d'événements PowerShell qui sont très intéressants à ramener de façon centralisée puis à monitorer. Pourrait vous aider à détecter certaines attaques, par exemple des payloads qui pourraient être encodés en PowerShell ou des gens qui essayent d'abuser PowerShell pour bypasser vos processus de whitelisting puis des choses comme ça. Donc, à ce niveau-là, il y a FireEye qui a un article qui est sorti l'an passé. Je pense que ça coïncidait environ avec la nouvelle version de PowerShell. Donc, ça pourrait être assez intéressant. Paul, toi, qu'est-ce que tu en penses de PowerShell puis le logging?
Je pense que c'est une technique qui est extrêmement intéressante côté Blue Team en fait, et justement côté Defense, c'est vrai que c'est très très bien, et si on peut arriver à coupler ça par exemple avec l'utilisation de Sysmon, surtout le parc en fait de machines que tu peux avoir, ça peut en fait justement te permettre d'arriver à loguer les appels que tu vas faire à PowerShell, que tu vas arriver à loguer tout ce qui va se passer avec, et je pense que c'est une très 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 bonne technique, sachant qu'actuellement si on regarde un petit peu ce qui arrive, alors comme tu disais avec FireEye, mais énormément de menaces sur Internet arrivent souvent un coup de fichier docx, Excel, avec une macro, boum, ça va lancer un PowerShell, ça va lancer plein d'attaques là-dessus, donc c'est très très bien, très très bien.
Puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, sur les systèmes plus critiques, qui, par exemple, s'ils font du whitelisting, mais des fois, il y a des trucs du genre Java.exe ou PowerShell qui sont whitelistés, puis des systèmes qui n'ont pas la capacité d'aller whitelister certains scripts spécifiquement, donc c'est certain que ça peut être une façon facile de contourner même des systèmes sur des systèmes de protection plus avancés que qu'est-ce qu'il y a de base, donc vraiment un must, mais Ce que tu as dit sur Sysmon aussi, c'est assez intéressant parce que la dernière version de Sysmon, c'est vraiment, vraiment top-notch pour faire du monitoring en détail sur Windows. La seule chose, encore une fois, ça ne s'adresse pas à des gens qui ont des vieilles versions de Windows. Essayez pas de faire fonctionner Sysmon V6 sur des serveurs Windows 2003 ou même, je pense que ça ne fonctionne pas sur Windows 7, la dernière version de Sysmon. Je crois que ça demande Windows 8 ou 10. Donc, encore une fois, ben, peut-être pour mieux sécuriser vos environnements neufs, mais mettez pas trop de temps sur Sysmon avec vos vieilles versions de Windows. Il y a quelques épisodes, on avait parlé de OS Query, les premiers épisodes du podcast La French Connection. Depuis, OS Query pour Windows aussi, c'est pas mal développé. Encore une fois, ça visait plus Windows 10, mais OS Query fonctionne maintenant sur Windows 7 aussi. Donc, si vous avez des besoins de monitoring, sortir la liste des processus qui roulent, aller chercher beaucoup d'informations sur les ports ouverts, les logiciels qui sont installés, puis tout ça, mais OS Query pour Windows devient de plus en plus une solution pratique. Qu'est-ce que tu en penses, Paul?
Non, mais du coup, j'étais intéressé parce que j'avais pas vu que OS Query, en fait, était sorti. Enfin, du coup, pour Windows, c'est excellent. Ça, c'est depuis quand?
Ben, c'est depuis l'automne, mais au début, c'était vraiment juste pour Windows 10. Là, oui. Depuis un mois et demi, je suivais ça assez de près, puis officiellement, Windows 7 n'était pas supporté, mais ça commençait à fonctionner. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est que entre les systèmes d'exploitation Mac, Linux, Windows, il n'y a pas tout à fait 100% de couverture de fonctionnalité. Ça s'améliore, mais dans la documentation de OS Query, c'est assez facile de voir qu'est-ce qui est supporté sur quel système d'exploitation. Donc, si vous allez voir la liste des tables OS Query, ben, on vous dit ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation POSIX compliant, ça fonctionne sur Windows, etc. Mais au niveau de Windows spécifiquement, il y a la compatibilité pour sortir la liste des shim. Tu sais, toutes les shim app compat, ça peut être vraiment, vraiment pratique puisqu'il y a du malware qui peut utiliser les shim pour faire de la persistance. Tout ce qui a rapport au driver, ce qui a rapport au patch, donc, si vous ne faites pas des scans de vulnérabilité avec un agent, vous n'avez pas la capacité de faire des scans de vulnérabilité authentifiés sur toutes vos machines ou whatever. Déjà être capable d'avoir une table qui vous sort la liste des patchs et la date d'installation, mais si vous avez un SIM qui est assez bien monté, vous allez pouvoir avoir des requêtes pour voir qu'est-ce qui pourrait manquer ou tout ce qui est dans Add Remove Program, la liste des services, les shares. Vous pouvez même lire les events Windows à partir de OS Query. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'envoyer tous les logs Windows vers votre SIM, par exemple avec des postes de travail, mais vous pouvez aller spécifier certaines requêtes, select étoile from Windows underscore events, qui est la table avec les événements Windows, where event ID égale X. Vous faites la liste des event ID que vous voulez aller chercher, vous mettez une cédule qui est assez rapide. Donc, même pour Windows, ça s'en vient vraiment, vraiment pratique. Je recommanderais vraiment à tout le monde de le regarder. Une autre chose que je trouve qui est super pratique, il y a les scheduled tasks, comme il y a les cron tabs sur Linux, mais il y a aussi accès au registry au complet. Donc, si vous avez un genre d'IOC, vous avez certains registry keys où vous savez que du malware que vous avez, avec lequel vous avez eu des problèmes récemment va aller s'inscrire pour persister, bien, vous pouvez facilement faire un select dans OS Query. Même, vous pouvez y aller pas mal plus large, ramasser des copies de certaines sections de l'arborescence du registry pour voir si vous trouvez des choses louches là-dedans. Donc, Logging PowerShell, Sysmon V6, OS Query, ça va vraiment augmenter votre niveau de votre capacité de monitoring. Mais si vous voulez utiliser les outils de base de Windows, Paul, est-ce que tu as déjà utilisé, par exemple, WAF pour ramasser certains événements, des choses comme ça?
Alors, pas encore, mais c'est dans les projets. Et justement, ça a l'air d'être extrêmement prometteur. Parce que, alors, pour expliquer un petit peu la problématique, c'est vrai que quand on se dit, tiens, on a une machine avec, voilà, je sais pas, quelques agents, par exemple, qu'il y a sur la machine, et que tu te dis, bah, en fait, à partir de maintenant, j'ai envie de monitorer, par exemple, PowerShell, j'ai envie de monitorer certains events. C'est vrai qu'on doit dire, bah, tiens, en fait, j'ai tant de machines à impacter, tant de machines où est-ce qu'il va falloir que j'impacte, que j'arrive à installer un agent. C'est vrai que ça donne souvent des frissons. Et là, en fait, donc, de base, ce WEF, et si j'ai bien compris, donc en fait est de base dans Windows et concrètement te permet en fait de justement lancer des queries et pouvoir récupérer en fait n'importe quoi qui se passe sur la machine Windows.
Ouais, ben en gros, ça demande d'activer WinRM. Si vous avez déjà WinRM actif, bon, c'est bon. Si vous n'avez pas WinRM actif, mais il faut quand même y penser là, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut juste activer sans trop se poser de questions. On configure une GPO, on pointe WEF vers un serveur, puis après ça, on est prêt à l'utiliser. Fait que moi, je trouve que c'est très pratique pour, par exemple, les postes de travail où on veut pas ramasser les event logs au complet. On veut vraiment juste aller chercher certains événements pour détecter, par exemple, les mouvements latéraux, l'authentification avec des comptes locaux, des choses comme ça. On fait la liste, on centralise, puis du serveur qui va recevoir ces événements-là, ben là, vous avez la capacité de reprendre ça puis de mettre ça dans votre SIM ou vos logs centralisés. Donc, ça coûte pas cher. C'est déjà dans Windows, c'est assez facile à déployer. Donc, je pense surtout, peut-être pas les très, très grandes entreprises, mais disons en moyenne entreprise, là, je pense que pour le prix, c'est dur à battre. Puis si vous avez un Splunk ou vous avez un Greylog ou un Elastic en arrière, c'est une façon parfaite de centraliser avant.
Et tu as l'air d'avoir aussi une granularité très importante, je pense, en fait, avec un outil type WEF, en fait. Tu peux arriver vraiment à chercher concrètement ce que tu veux. Ça a l'air hyper générique, non?
Ben, ça te permet vraiment d'aller chercher juste ce que tu veux, puis de garder juste ce que tu veux. Puis, tu sais, quand on parle de, par exemple, les logs, par exemple, sur des domain controllers, personne ne va se poser de questions. Ils vont dire, OK, on ramasse tout ça, puis on le garde. Le stockage ne coûte pas trop cher. Mais quand quelqu'un dit le stockage ne coûte pas trop cher, ça veut quand même pas dire que si tu as 5000 postes de travail, tu es capable de garder les event logs pendant un an au complet. Tout finit par coûter cher quand tu as un assez gros volume. Fait que justement, puis en même temps, de le faire au début, ça nous force un peu à penser à quel type d'événement on pourrait utiliser quand on fait de la réponse aux incidents, plutôt que la technique, bah, je vais tout ramasser puis je m'en servirai plus tard, qui en général n'est pas la manière la plus efficace de faire de la centralisation de logging. Donc, un autre truc qui existe en partie depuis assez longtemps, puis que je vois pas nécessairement très, très, très souvent, je sais pas, Paul, je serais curieux de savoir, est-ce que tu vois l'utilisation de Windows Core puis de Windows Nano quand même assez fréquemment?
Alors, pas trop de mon côté. Non.
Donc, Windows Core, j'en ai vu un peu, mais j'ai l'impression que les gens l'utilisent peut-être pas autant qu'on devrait. Pour quelques raisons différentes. La première, je pense, c'est au début quand Server Core a été releasé avec, je pense que c'était 2008. Je me souviens pas si c'était 2008 R2.
Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais.
Je pense que c'était 2008 R2. En tout cas, il supportait vraiment pas toutes les fonctionnalités de PowerShell. Il supportait pas toutes les fonctionnalités de .NET. C'était comme trop stripped down dans un sens, mais pas assez d'un autre. Ça valait pas autant la peine. Mais à mesure que les versions de Windows Server ont continué d'évoluer avec 2012, puis là, avec 2016, c'est encore plus avancé, il y a vraiment de moins en moins de raisons de rouler une interface graphique sur des serveurs Windows qui ont des rôles assez génériques. Donc, par exemple, que ce soit des serveurs de fichiers, des serveurs d'impression, tous les trucs Microsoft de base, il y a vraiment de moins en moins de raisons d'utiliser la version complète de Windows avec une interface graphique. Ça va vous aider beaucoup au niveau de la gestion des patchs. T'sais, pas avoir Internet Explorer à patcher, pas avoir toute l'interface graphique, ben c'est moins de reboot, moins de patchs installés, moins de surface d'attaque. Puis ça force aussi les administrateurs de systèmes d'utiliser les management jump box ou des dedicated management workstation, parce que personne peut faire un remote desktop puis commencer à travailler dessus. Fait que c'est un avantage aussi au niveau de la gestion. T'sais, ça force les gens à le gérer de la bonne manière. Personne ne peut ouvrir Internet Explorer puis essayer d'aller downloader une patch directement à partir d'un serveur. Puis, donc, ça a vraiment plusieurs avantages. Puis là, Windows Nano, qui est encore plus nouveau, qui est encore vraiment, vraiment plus minimaliste, c'est vraiment pour les environnements cloud, très élastiques. Donc, par exemple, si vous travaillez sur une nouvelle application .NET qui va rouler dans Azure ou dans Amazon, vous n'avez pas besoin d'interface graphique, mais vous savez que vous allez avoir vraiment, vraiment beaucoup de machines virtuelles qui vont être démarrées, qui vont être détruites. Peut-être que vous allez rouler des containers là-dedans. C'est vraiment la version la plus slim de Windows, puis ça a vraiment beaucoup d'avantages niveau opérationnel, mais aussi niveau sécurité.
Windows Nano, du coup, t'as une idée de quand est-ce que c'est sorti?
Windows Nano, ça fait partie de Windows Server 2016, en fait.
D'accord.
Donc, c'est ça, encore pour réduire la surface d'attaque. Puis, tant qu'à parler de la surface d'attaque, on parlait des postes de travail dédiés pour la gestion, mais aussi les postes de travail normaux. Donc, dans l'épisode passé, on expliquait que veux vraiment pas avoir des administrateurs de domaine qui utilisent des postes de travail normaux avec des comptes à privilèges aussi élevés, ben utiliser AppLocker, ça a vraiment plein de bénéfices de sécurité, mais utiliser AppLocker pour bloquer spécifiquement des trucs qui peuvent être utilisés pour faire de l'escalade de privilèges, ça peut vraiment être très pratique. Donc, par exemple, ce qui peut arriver, pas de façon malicieuse, juste quelqu'un qui essaie de faire son travail, peut pas se loguer domain admin sur son poste de travail, ça lui tente pas d'utiliser la station centralisée pour faire du travail domain admin, whatever, essaie de faire un runAS en tant que domain admin. Dépendant de vos user right assignment, dans certains cas, il va toujours avoir une manière où une application peut être exécutée, puis une authentification peut être lancée, puis c'est pas tout le monde non plus qui a les fameuses politiques d'authentification en silo. Donc, vraiment bloquer des trucs comme runAS à partir de AppLocker, ça peut empêcher un paquet de chemins d'escalade de privilèges que soit des gens pourraient utiliser de façon non malicieuse pour se faciliter la vie, mais en mettant à risque des comptes à très très haut privilège qui ne devraient pas être faits. Ben, assurez-vous que vos stations de gestion sont vraiment, vraiment performantes puis faciles à utiliser. Puis aussi, ça peut aussi empêcher certains malwares de faire de l'élévation de privilèges ou quelqu'un qui a pris le contrôle d'un poste de travail de le faire. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est faites votre hardening, déployez vos centrales, vos stations de gestion. Après ça, commencez à utiliser AppLocker pour bloquer des trucs comme runAS. Puis à mesure que vous faites vos tests d'intrusion à l'interne, si vous faites du red teaming à l'interne, commencez à utiliser comme target vos administrateurs de système puis tout ça, puis améliorer vraiment votre contrôle à partir de ce que les gens qui vont faire votre red teaming vont être capables de trouver, parce que bon, il y a plusieurs manières là, de faire de l'escalade de privilèges sur Windows. Ils peuvent pas tout être bloqués avec un truc comme AppLocker, mais je pense qu'on peut rendre la vie vraiment plus difficile aux gens qui vont s'y attaquer. Puis une fois que vous avez fait ça, mais là, commencez à regarder le genre de log que vous pouvez générer à partir de là pour voir si vous pourriez pas potentiellement détecter quelqu'un qui essaie de faire des élévations de privilèges. Déjà, tout ce qui est vos user right assignment dont on parlait la dernière fois, quand quelqu'un a un compte valide, mais qui essaie de se loguer d'une manière qui est pas autorisée, ça va générer une alerte. Vous pouvez le voir. Puis on va voir dans les show notes des slides d'un talk à B-Sides. Dans quelle ville, Paul, le lien que tu viens de m'envoyer?
C'est une très bonne question. Alors, c'est le B-Sides Charm. Alors, où est-ce que c'est exactement? Je vais essayer de te trouver ça. C'est à Baltimore. Voilà. Donc, par une personne qui a un site qui s'appelle AD Security. Alors, certainement, vous le connaissez. Alors, je crois que son handle sur Twitter, c'est Pyrotech.
Oui, absolument. Donc, très, très bonne présentation. Tu m'as envoyé le lien, mais je l'avais déjà vu, oui. Mais je ne l'avais pas mis dans les show notes, fait qu'on va la mettre. Puis, évidemment, AD Security, super bon site web pour n'importe qui travaille en sécurité puis qui a s'occuper des système Windows qui couvre une bonne partie de tout le monde, mais tout aussi vos sysadmin Windows, ça peut être une bonne ressource pour eux. Donc maintenant, peut-être un niveau moins technique côté endpoint et serveur, mais la gestion des GPO, c'est quelque chose que j'ai vu être assez clean, vraiment pas clean, puis complètement catastrophique dépendant des entreprises où j'ai travaillé, des endroits que j'ai vu dans ma vie. Il y a un outil de Microsoft qui s'appelle AGPM pour Advanced Group Policy Management. C'est pas tout le monde qui peut l'obtenir, mais si vous travaillez pour une entreprise qui a un contrat d'entreprise avec Microsoft, ça fait partie de ce que Microsoft appelle le Microsoft Desktop Optimization Pack ou MDOP. Donc, ça se peut dans certains cas, surtout les plus grandes entreprises, que vous ayez accès à AGPM gratuitement. Ben, gratuitement entre guillemets, là, vous avez déjà donné un chèque de je sais pas combien de millions, donc c'est inclus. Si vous pouvez utiliser AGPM, en gros, là, ce que c'est un système de gestion de source pour vos GPO. Donc, AGPM, son compte de service, va être le seul qui est capable d'aller modifier Sysvol, donc modifier les GPO. Puis, il y a une application qui vient avec ça, il y a une application client. Puis, ce que ça vous permet de faire, c'est de déléguer des droits. Donc, quelqu'un peut avoir le droit de seulement déployer une nouvelle GPO ou de définir des GPO, réviser les GPO. Ça permet juste de garder vraiment le contrôle sur qu'est-ce qui arrive un peu partout, parce que j'ai vu beaucoup de problèmes de sécurité qui résultaient de quelqu'un qui a fait un changement à une GPO par erreur, qui introduit vraiment des problèmes de sécurité assez graves. Puis là, on se retrouve dans une situation où si cette GPO-là s'en va en prod, Ben, non seulement c'est un problème, il n'y a personne qui l'a nécessairement révisé. Puis dans 2 ans, quand quelqu'un va s'en rendre compte, ben, le désactiver, c'est peut-être pas toujours aussi facile que ça, parce que d'enlever des droits, c'est toujours beaucoup plus compliqué que d'en donner des nouveaux, parce qu'on ne sait pas ce qui a été déployé depuis qu'ils utilisent. Donc, si vous avez le Desktop Optimization Pack, ça vaut absolument la peine d'utiliser AGPM. Si vous n'avez pas le Desktop Optimization Pack, mais il y a d'autres applications third-party qui permettent de faire un peu la même chose. Si vous avez le Desktop Optimization Pack, par exemple, il y a d'autres choses que vous devriez regarder. Donc, la première, c'est MBAM. C'est la console de gestion pour BitLocker. Ça pourrait vous permettre d'utiliser BitLocker en entreprise de façon beaucoup plus facile, c'est avec les recovery clés et tout ça. Donc, si vous avez le MDOP, absolument, regardez MBAM. Puis aussi Microsoft AppV. Je sais pas, Paul, as-tu déjà utilisé AppV ou à l'époque quand ça s'appelait SoftGrid?
Non, du tout. Jamais.
Donc, c'est la virtualisation d'applications. Ça fait aussi partie du Desktop Optimization Pack. Moi, c'est vraiment mes 3 morceaux préférés du Optimization Pack, en tout cas d'un point de vue de sécurité. C'est une entreprise que Microsoft a achetée, bon, ça fait déjà assez longtemps, qui faisait de la virtualisation applicative. C'est un peu similaire à VMware ThinApp, pour ceux qui nous écoutent qui ont VMware ThinApp. Donc, si vous n'avez pas VMware, que vous avez le Desktop Optimization Pack, regardez AppV. Ça peut être une super bonne manière de virtualiser des applications, virtualiser les paths où l'application a besoin d'écrire, comme par exemple, vous avez une application qui ne fonctionne pas sans être admin local parce qu'elle veut écrire dans HKey Local Machine, elle veut écrire dans Program Files, elle veut écrire dans System 32. C'est une vraiment bonne manière de virtualiser cette application-là dans un package MSI qui est streamé quand la personne exécute, donc il y a juste ce qui est nécessaire qui est livré. Donc, que ce soit des vieilles applications que vous ne voulez pas avoir qui traînent en tout temps sur les machines, des applications que les gens n'utiliseront pas souvent, ou que ce soit des trucs qui fonctionnent juste en tant que local admin, vous allez probablement être capable de le repackager sans qu'il y ait besoin de droits local admin, simplement en faisant croire à l'application qu'elle est local admin, mais en y donnant aussi des folders virtuels où elle peut aller écrire. Même pris à l'extrême, j'ai déjà utilisé AppV pour virtualiser des versions différentes de navigateurs web avec des versions de Java différentes. Donc, par exemple, problème assez commun dans les équipes IT Windows. On a un paquet de logiciels qui sont gérés à travers des consoles web, mais il y en a beaucoup de ces consoles web-là qui sont un peu tout croche. Donc, je sais pas, peut-être vous avez un antivirus qui a besoin d'une vieille version de Java pour que ça fonctionne. Vous avez peut-être un système d'archivage qui a besoin d'une version de Flash dans un navigateur pour que ça fonctionne, tatata. Donc, ce que j'avais fait, c'est pour chacun de ces combos-là, packager avec AppV une version d'Internet Explorer avec la version de Java ou le plugin qui est nécessaire ou whatever. Puis une configuration de proxy qui l'empêche d'être utilisé pour autre chose. Vous pouvez même enlever des morceaux de l'interface graphique. Les gens qui utilisent la console de qui ont peut-être pas mis à jour depuis un bout de temps, qui ont besoin d'une vieille version de Java, ben, il y aura au moins une version d'Internet Explorer qui sert juste à ça. Fait que vous diminuez vraiment, vraiment beaucoup votre risque. Fait que si vous avez Desktop Optimization Pack, je pense qu'avec ces 3 morceaux-là, c'est vraiment une bonne valeur ajoutée. Peut-être que pour ces 3 morceaux-là, ça vaut de la peine la prochaine fois que vous allez renouveler votre contrat avec Microsoft de voir est-ce que c'est plus rentable d'acheter ça que des morceaux séparés. Mais AGPM, MBAM, puis AppV, vraiment regarder. Donc, je ne sais pas si Paul, tu as déjà eu la chance de travailler un peu avec le Optimization Pack. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'ont.
Alors, pas encore, justement. Là, c'est une grande découverte pour moi ce soir. Non, pas encore.
C'est des trucs que Microsoft, on dirait, font pas beaucoup de publicité pour, mais c'est par exemple BitLocker, je trouve que c'est correct, mais c'est super difficile à gérer en entreprise. Ouais. Si tu as des milliers d'utilisateurs, tu as besoin d'une façon de supporter les gens quand ils sont offline. Je trouve que MBAM, ça devrait venir dans Windows. C'est un peu comme un truc de base qui me semble...
Tout à fait, par défaut, oui.
Dès que c'est une version d'entreprise de Windows, en tout cas. Puis, une fois qu'on a le Desktop Optimization Pack, s'il reste de l'argent, bah, évidemment, il reste toujours un truc de plus à acheter. Un truc qui est très intéressant de Microsoft, c'est Microsoft ATA. Ça, c'est la pause awkward, alors que j'essaie de me souvenir, c'est quoi l'acronyme, Paul? Microsoft ATS, tu te souviens?
Advanced Threat Analytics, oui, exactement.
OK, non, exactement. Advanced Threat Analytics. Donc, ça aussi, c'est une entreprise que Microsoft avait acheté il y a quelques années. Ils ont renommé Microsoft ATA. À la base, c'était vraiment du monitoring l'analyse de pattern vers Active Directory. Donc, ATA va vraiment regarder le trafic vers vos contrôleurs de domaine puis détecter s'il y a des choses qui se passent au niveau de l'authentification, Kerberos qui ont pas d'allure, l'utilisation des tokens qui n'ont pas de sens ou simplement des patterns d'utilisation des utilisateurs qui varient. J'ai un peu vu Microsoft ATA en action, puis je trouve que parmi tous les produits de sécurité qui se vendent d'utiliser des techniques avancées de behavior monitoring et blablabla, puis c'est pas toujours vrai. Celui-là, je trouve qu'il se positionnait de façon assez intéressante. C'est juste du monitoring, ça bloque pas grand-chose, mais normalement, ça devrait pas générer vraiment beaucoup de false positives. Ça devrait être quelque chose qui est quand même assez assez light au niveau du monitoring, mais c'est un peu difficile à mettre en place, par exemple.
Du coup, ça bloque pas, mais ça te sort en fait des alertes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il va être capable d'analyser ce qui se passe vers tes contrôleurs de domaine. Puis évidemment, ça va aussi jouer un peu. Ça ressemble un peu à ce que Microsoft fait avec ATP. Donc, tout le nouveau Threat Intelligence de Microsoft qui développe à l'interne, bien, rapidement, ça va être utilisé dans les produits comme Microsoft ATP, Office 365 Advanced Threat Protection, puis Microsoft ATA. Là, ce que je vous dirais pour le licensing, là, c'est drôle, on dirait que le podcast est viré en podcast sur comment les licences de Microsoft fonctionnent. mais c'est à regarder, peut-être c'est plus abordable pour les gens qui sont vraiment, vraiment all-in avec Microsoft, un peu comme le Desktop Optimization Pack. T'sais, si vous utilisez Office 365 puis Azure, il y a peut-être des chances que ça coûte moins cher de rajouter sur votre licence Office 365 que de l'acheter complètement séparément si vous utilisez Google Apps en ce moment. Donc, c'est pas nécessairement abordable pour tout le monde. Mais si vous êtes rendu à un point où tous les trucs de base, tout ce qu'on a discuté, c'est clean, vous avez fait la segmentation de vos comptes de services sont pas mal limités, vous avez du bon monitoring un peu partout, il n'y a pas de domaine admin qui utilise des postes de travail, tout ça, je pense que c'est la prochaine étape pour vous.
Et sachant que pour justement la Microsoft ATA, de souvenir, en fait, ils ont un mode de licensing où tu payes soit par utilisateur ou par device que tu as en fait dans ton entreprise. De souvenir,
C'est ça, je sais qu'il y a des licences aussi permanentes versus font partie des subscriptions avec Office 365, donc c'est assez compliqué, là. Puis je pense que ça doit vraiment dépendre de. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup de postes.
Tout à fait.
Puis moins d'utilisateurs. Il y a aussi l'inverse, là. Tu sais, les gens qui roulent 24/7 avec un parc, par exemple, pour un call center, ben, t'as trois fois plus d'employés que de postes de travail. Fait qu'en tout cas, à calculer. Mais je suis vraiment pas un fan de dépenser pour ce genre de truc-là avant que tout le reste a été fait. Le reste a été clean. Je pense que dans nos deux derniers épisodes, on vous a donné assez de travail à faire qui ne demande pas d'acheter des trucs comme le Desktop Optimization Pack ou ATA. Donc, concentrez-vous là-dessus. Puis quand vous allez atteindre le maximum que vous pouvez faire.
Une certaine maturité après, exactement, tu peux passer au reste.
Exactement. Quand tout le reste est géré, tu sais, Sysmon, OS Query, plein de trucs gratuits, vraiment, vraiment utiles. Puis une fois que le niveau de maturité, les monitoring, les processus sont là, ben là, vous allez être prêt pour un peu plus. Mais l'avantage que vous allez avoir, c'est que contrairement à beaucoup d'équipes de sécurité un peu partout dans le monde, vous n'allez pas avoir 32 trucs avec des lumières qui flashent dessus, 1200 alertes par jour, puis une utilisation qui est très, très, très suboptimale.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où justement tu arrives à builder en fait tout ton système toi-même avec ton équipe, tu fais des erreurs, mais tu fais aussi justement des choses où tu te dis, bah en fait, au début, je vois que j'ai énormément de faux positifs et je vais essayer de réduire le bruit. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas justement te poser les bonnes questions et arriver à te dire en fait, bah ok, en fait, je vais par exemple écouter seulement par exemple les event ID de ce type par exemple sur Windows, ou je vais par exemple m'intéresser qu'à cette partie. Et à partir de ça, en fait, tu vas concrètement arriver à être beaucoup plus effectif dans le travail et dans le système d'alerte que tu vas arriver à remonter.
Oui, c'est clair. Puis il y a des trucs aussi qui sont quand même relativement faciles à faire, mais quand tu arrives avec ATA, ça demande l'implication de beaucoup plus de gens, là, parce que ça prend des mirror ports. En gros, ça sniffe vraiment la connectivité vers Active Directory. Là, il y a des histoires de chiffrement puis tout ça. Donc, tu sais, faire les choses dans le bon ordre, comme tu dis, tu fais des erreurs, tu génères beaucoup de false positives, tu corriges, tu continues. Mais je pense qu'en ce moment, quelqu'un qui aurait un environnement, par exemple, un domaine 2012, beaucoup d'utilisation des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités pour la sécurité des comptes, sécurité de remote desktop, des bons user right assignment, tout ce qui est NetBIOS, SMB, RPC, puis WMI, Remote Desktop, bloqué entre poste de travail à poste de travail, puis aussi vers les serveurs, ben, autres que des serveurs de fichiers, évidemment, dans le cas de SMB, RPC. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui a un environnement Windows où la plupart des attaques off-the-shelf vont avoir vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à fonctionner. Surtout si vous avez des navigateurs à jour. Le hardening d'Office qu'on a parlé dans le premier épisode, je pense que rendu là, vous allez être à un niveau qui est pas mal plus avancé que la plupart des entreprises qui utilisent Windows.
Exactement. Oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus.
Donc, c'était notre deuxième segment sur Active Directory. Si vous avez des commentaires spécifiques à la sécurité Windows, envoyez-nous-les sur Twitter à Sécurité Podcast. Si vous avez des questions, peut-être que ça vaut la peine de faire une troisième partie qui rentre plus en détail dans une de ces recommandations ou peut-être un autre encore plus avancé dans quelques mois. Mais on est à l'écoute, donc si vous êtes, ça vous intéresse, vous avez juste à nous le laisser savoir. Ben merci, Paul, d'avoir participé à ce segment technique.
Merci à toi.
Est-ce qu'on a certaines annonces à faire pour le podcast?
Ben, pas pour le podcast, mais on a le IAC le 10 juin qui s'en vient. Fait que inscrivez-vous. Il y en a dans plusieurs régions actuellement qui roulent. Donc, vous regardez sur le site du Hackfest. Les informations sont disponibles. Sinon, ça tourne pour tout ce qu'on a pour le moment. Super intéressant, messieurs. Fait que moi, je pense que ça conclut l'ensemble.
Une dernière petite chose, il y a No Limit Sécu qui a fait quelques épisodes sur Active Directory presque en même temps que nous. On a eu un peu un overlap là-dessus, donc si vous voulez en entendre encore plus, mais c'est là pour vous.